Voilà, donc bon sabbat à tous encore une fois. J'espère que vous avez passé un très bon sabbat. J'ai échangé plusieurs courriels avec plusieurs de vous et merci pour votre fidélité cette semaine et j'espère que vous êtes prêts pour le sermon, pour apprendre quelque chose. J'espère que ça vous aide. Cette année, lors du premier jour de la fête des tabernacles, j'ai donné un message dans lequel je demandais si nous étions prêts à être juges dans le royaume de Dieu. J'ai pris l'exemple du procès de Louis XVI et j'ai demandé quel aurait été notre jugement. Et ensuite, le huitième jour, M. Clore et M. Bernal ont mené une étude biblique sur les principes de la justice divine que nous trouvons dans la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais m'appuyer sur ces deux messages et parler plus particulièrement qu'il nous faut apprendre dès aujourd'hui à exercer des bons jugements aujourd'hui dans notre vie de tous les jours et dans tout ce que nous faisons. Et pour introduire mon sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est ainsi que se présente le tout début des films de la Star Wars, La Guerre des Étoiles, produit par George Lucas au cours de 45 dernières années. Mais je voudrais plutôt vous parler de la véritable Guerre des Étoiles qui s'est déroulée il y a bien longtemps avant la création de l'homme. D'humanité. En ce temps reculé, Dieu le Père et Jésus-Christ existaient. Ils ont créé les cieux et les terres, et nous savons d'après Job 38, verset 7, que les anges existaient déjà et qu'ils ont chanté de joie lors de cette création. Les anges existaient avant nous et ils ont été créés à partir de l'esprit et non de choses physiques. Ils ont servi les desseins de Dieu pendant une période dont nous ne connaissons pas la longueur. Puis quelque chose s'est produit. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Jude 5 et verset 6. Il y a seul un chapitre à Jude, donc c'est chapitre 1, verset 5 à 6. Nous lisons verset 5 et 6 ici. Jude. C'est le livre juste avant l'Apocalypse. Jude 5, verset 6, et nous lisons ici l'histoire des anges. Il commence avec un autre sujet, mais pour comprendre le contexte, je vais commencer au verset 5. Il dit, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Apocalypse 12, verset 4, nous dit que Satan a détourné de Dieu un tiers des anges. L'apôtre Pierre écrit également que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché et qu'il les a réservés pour le jugement. Les anges, en tant qu'êtres spirituels, ont péché et rejeté leur vocation. Ils ont fait preuve d'un très mauvais jugement et cela leur a coûté leur relation avec Dieu. Nous voyons donc dans ce passage que les êtres spirituels peuvent faire preuve d'un mauvais jugement. Pensez-nous que nous deviendrons des êtres spirituels sans avoir appris maintenant dans cette vie à penser, à discerner et à juger comme Dieu nous dit de la faire. Le point essentiel que je retiens de l'histoire des anges est que Dieu a choisi de leur donner le libre arbitre, ce qui, dans certains cas, les a conduits à prendre de mauvaises décisions et à faire preuve d'un mauvais jugement. Nous ne sommes pas différents. Nous avons le libre arbitre et Dieu nous permet de prendre des décisions. Nous sommes ses enfants. Et tout comme les enfants deviennent des adultes et font leurs propres choix, Dieu nous permet de faire nos propres choix. Ainsi, en ce qui concerne l'apprentissage de la justice, nous devons comprendre que Dieu veut que nous apprenions de précieuses leçons maintenant, afin que nous puissions les importer avec nous, parce que nous deviendrons des êtres spirituels et ses enfants dans le royaume de Dieu. Nous ne recevrons pas de pouvoir magique, entre guillemets, après notre résurrection en tant qu'être spirituel. Nous ne recevrons pas une sagesse parfaite d'un seul coup. Ça, c'est important, d'un seul coup. Tout comme Dieu n'a pas donné aux anges une sagesse et un discernement parfait. On peut supposer que les anges ont dû apprendre et développer un bon jugement et qu'il en est de même pour nous. Nous devrions utiliser notre temps maintenant pour étudier la parole de Dieu et apprendre à appliquer ses principes afin d'être prêt à juger les nations quand le moment viendra. L'un des enseignements de longue date de l'Église est qu'au cours des 3 ans et demi précédant le retour de Jésus-Christ, nous serons emmenés dans un lieu de sécurité et de formation finale où nous aurons l'occasion de recevoir un enseignement plus approfondi. Ça, c'est très bien, mais nous devons apprendre les leçons dès maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux parler de la façon dont nous devons apprendre à juger avec sagesse. Dans ce sermon, nous allons parler de notre rôle futur et présent dans l'exercice du jugement et du fait de ne pas nous mettre à la place de Dieu en exerçant nos jugements. Et après cela, nous allons discuter 3 principes spécifiques d'un jugement biblique saint. Donc ça, c'est le sujet aujourd'hui, et lorsque nous aurons terminé, j'espère que vous aurez envie d'approfondir ce sujet et que chacun d'entre nous commencera à appliquer ces principes. Voilà, donc pour commencer, notre premier point, quel est notre rôle futur et présent dans l'exercice de jugement? Reportez-vous s'il vous plaît à l'Apocalypse 20 et verset 4, Apocalypse 20. Ça, c'est le même passage que j'ai cité lors de la fête cette année, mais je crois qu'il est un bon endroit de commencer. Apocalypse 20, verset 4, quelques pages après Jude, nous lirons verset 4, juste verset 4 ici. « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes et ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous avons lu ce passage ensemble pendant la fête. Ce verset indique clairement que nous serons assis sur des trônes pour exercer le jugement. Tel est notre rôle futur. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie que nous jugerons? Le mot jugement, ici au verset 4, est le mot grec krima. Krima. K-R-I-M-A, krima, qui signifie un jugement, un verdict ou une affaire en justice. Le dictionnaire d'études des mots indique que l'accent est mis sur le résultat, soit de la condamnation, soit de la rédemption. C'est pourquoi ce mot également traduit par verdict. C'est un mot qui met l'accent sur les résultats, les conséquences dans un sens, mais les bonnes conséquences, c'est droit à dire. L'important est que le jugement ait des conséquences durables. C'est le but ultime. C'est en fin de compte ce que nous devons être prêts à faire. Mais comment relier cette règle à notre rôle actuel? Mais regardez ce que Paul avait dit à l'Église dans 1 Corinthiens 6 et verset 1. Donc, reportez-vous s'il vous plaît maintenant. Première lettre à l'Église à Corinthe, 1 Corinthiens 6 et verset 1. Nous allons lire verset 1 à 6 ou 7 ici. 1 Corinthiens 6, à partir de verset 1. Pour comprendre notre rôle actuel maintenant. Et ça, c'est le lien entre ce rôle dans le futur et notre rôle maintenant. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? C'est une question. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, et plus forte raison, les choses de cette vie? Chaque fois que le mot jugement est décrit ici, Paul utilise un mot différent. Il utilise le mot krino. Krino, K-R-I-N-O, qui vient de termes séparés. Il y a un mot lié dans un sens avec l'autre mot, mais c'est un mot différent. La différence, c'est que ça veut dire qu'examiner une situation pour déterminer les faits ou décider de ce qui est le mieux. C'est un mot différent que parle davantage de la compréhension des détails et de la prise d'une décision sur la base de ces détails. Alors que Apocalypse 1 parle plutôt d'être impliqué dans la décision finale. Paul a compris que les jugements d'aujourd'hui concernent des litiges entre personnes. Ces litiges exigent que les faits soient examinés et que de sages décisions soient prises. Il a également établi un lien entre notre rôle futur dans le royaume de Dieu en tant que juge et notre capacité à juger aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a dit au verset 3, les choses de cette vie. Donc, il crée un lien entre le rôle futur et notre rôle présent ici. Le commentaire expositeur de la Bible précise que Paul parle probablement de litiges relatifs à la propriété, et non d'affaires criminelles. Donc, il y a toujours la question est-ce que c'est pour meurtre ou pour les choses criminelles. Donc, probablement, selon les érudits, il parle de les choses relatives de propriété. Il précise, c'est les commentaires, que les Juifs en Israël avaient leur droit de porter les affaires internes devant les tribunaux juifs et non devant les tribunaux romains. Donc, bien sûr, parce que Israël, c'est une nation et il a le droit d'avoir les choses comme ça. Donc, ça, c'est le lien. La communauté chrétienne n'avait pas de reconnaissance juridique, bien sûr, mais cela ne signifie pas qu'elle ne pouvait pas régler ses litiges de façon interne. Nous devons vivre et agir dans le cadre des systèmes juridiques des pays où nous vivons. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Mais le principe est que, dans la mesure du possible, nous devons régler nos différends entre nous. Le ministère est là pour nous aider et nous soutenir dans cette démarche. Donc, Attends juste 2 secondes. Voilà, dans cette démarche. Si deux personnes ont un différend et acceptent de se soumettre au jugement du ministère, cela peut être une meilleure alternative à un procès. L'Église compte également des experts dans des différents domaines, des hommes sages qui comprennent certains domaines. Il peut s'agir d'avocats, de comptables, des professionnels de l'immobilier et de la finance. Ces personnes peuvent fournir des conseils spécifiques pour aider à régler certains litiges. Il parle spécifiquement qu'il fallait écouter les conseils de telles personnes dans 1 Corinthiens 6, versets 4 et 5. Donc, regardez maintenant, c'est 4 et 5. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Donc pourquoi aller en dehors? Verset 5. Je le dis à vos entres. Ainsi, s'il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Donc ça c'est un enseignement qui décrit que il n'y a pas des hommes sages parmi vous. Ça c'est il est incrédule qui peut prononcer un jugement entre les frères ici. Autrement dit, Paul est un peu sarcastique en disant cela. Il comprend que bien sûr prononcer un jugement c'est décidé, c'est le mot grec diakrinia qui signifie décider. Donc, il y a des hommes qui peuvent aider à régler la situation. Et aussi, le verset 3 fait également référence au jugement des anges. Le terme grec n'ayant pas d'article, certains experts pensent que cela signifie que nous ne jugerons pas tous les anges, mais seulement les anges qui ont péché. Il n'y a pas beaucoup d'autres indications sur ce que signifie juger les anges. Nous ne pouvons donc que spéculer, mais c'est intéressant qu'elle ait mentionné aussi. Encore une fois, le principe est que nous devons juger les choses maintenant et appliquer les principes bibliques que nous étudions. Il soulève également la question de la submission que l'on doit avoir les uns envers les autres. Voir le fait d'accepter une injustice si nécessaire. Donc, continuez à lire au verset 6 maintenant, verset 6 et 7. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ainsi, apprendre à exercer un bon jugement, c'est aussi savoir se soumettre les uns aux autres dans l'amour et même accepter certaines injustices pour un plus grand bien. Une autre façon de la dire est « Préférais-tu avoir raison ou avoir la paix avec ton frère ?» Maintenant que nous avons confirmé que notre devoir d'exercer de bons jugements est à la fois futur et présent, parlons d'abord de la grande prudence et de l'avertissement qui nous est donné lorsque nous devons passer un jugement. C'est mon deuxième point. Deuxième point. Dans nos jugements, ne nous mettons pas à la place de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Reportez-vous, s'il vous plaît, à Matthieu 7. À Matthieu 7, verset 1. Oui. Dans nos jugements, ne nous mettons pas à la place de Dieu. Matthieu 7. Et verset 1. Nous pouvons lire ici l'enseignement du Christ. Il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Le mot pour juger ici est le même mot, krino, que celui utilisé par l'apôtre Paul. Comme j'ai mentionné, il signifie séparer, séparer, trier, dans un sens, ou examiner attentivement. Nous lisons cette phrase et souvent les gens s'arrêtent là et disent « Je ne peux pas juger personne hein? ». C'est ce que dit la Bible. Mais si c'est vrai, n'est-ce pas en contradiction avec ce que nous venons de lire de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse ou de l'apôtre Paul? Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Continuons à lire au verset 2, et voyons si nous pouvons comprendre ce que Jésus dit. Il dit au verset 2, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesure. » Le mot pour « jugera » est « krino » ici, « car on vous jugera ». Ça c'est « krino », c'est le même sens, « séparer ». À examiner les détails. Mais le mot pour jugement est crima. C'est le même mot à Apocalypse 20, qui signifie le résultat ou le verdict. Le langage grec implique ici l'intention d'une personne de condamner ou de parvenir à un verdict final. L'expositeur, commentaire, Bible, va même jusqu'à dire que l'attitude décrite ici consiste à se mettre à la place de Dieu. Le Bible de Semeur traduit les accents grecs de manière plus appropriée, je crois, dans cet domaine. Il traduit les versets 1 et 2 de la manière suivante, et je vais lire ici, « Ne condamnez pas les autres. » pour ne pas être vous-même condamné. Et verset 2, car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui. Et on vous appliquera la mesure dont vous serez servir pour mesurer les autres. C'est intéressant. Condamné. Donc, c'est le même mot en mais le contexte, c'est plutôt condamner que juger. Ce que Jésus décrit est clarifié plus loin au verset 3 et 4, où il nous dit de considérer notre propre situation. Donc verset 3, maintenant Matthieu 7, verset 3, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas le poutre qui est dans ton œil. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laissez-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Ces versets ne constituent pas une interdiction de juger, non pas une interdiction de juger, mais plutôt une instruction sur l'attitude que nous devons avoir lorsque nous émettons des jugements. Jugeons-nous durement les choses en nous forgeant des opinions tranchées sur les gens? Si c'est le cas, alors Dieu nous dit qu'il nous jugera aussi sévèrement. Nous pouvons nous faire une opinion sur la base des faits tels que nous les connaissons ou tels que nous le comprenons. Mais nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu dans notre jugement, sachant que nous n'aurons pas jamais une connaissance parfaite. Remarquez comment Paul répète ce thème dans Romains 14, verset 10. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, dans Romains 14. Romains 14, verset 10. Et Je vais lire ces versets dans la Bible de Semeur aussi, car je pense qu'il résume bien l'idée. Il dit ici, « Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Ne devons-nous pas tout comparaître devant le tribunal de Dieu ? Car il écrit, « Ainsi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou pleurera ou se fléchira devant moi. » Et toute langue me reconnaîtra comme Dieu, ainsi comme chacun de nous rendre compte à Dieu pour lui-même. Lorsqu'il s'agit de porter des jugements sur nos frères et sœurs dans l'Église, ce verset devrait nous arrêter dans notre élan et nous aider à réaliser que nous devons être miséricordieux et bons. Et maintenant que nous avons compris qu'il faut apprendre à juger maintenant pour se préparer à notre rôle futur, et parlons de quelques principes très précis tirés de la Bible. Je vais aborder trois principes dans ce sermon, comme j'ai mentionné. Ces principes figurent sur la liste qui vous a été remise par M. Clore lors de l'étude biblique du huitième jour. Donc peut-être vous avez déjà étudier quelques principes comme ça. Le premier principe est le suivant. Discuter avec notre frère. Notre frère ou sœur, hein, ou frère aîné, frère physique, frère physical, spirituel. Donc, ça, c'est le sens de frère dans mon point ici. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Matthieu 18. Matthieu 18 et verset 15. Matthieu 18 et verset 15. C'est très connu. Nous allons lire juste verset 15 pour l'instant. Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » La version de Louis II ici a omis quelque chose de très important. De nombreuses autres versions françaises disent « Si ton frère a péché à ton égard, pas seulement si ton frère a péché. » Cela fait une grosse différence. Vous pouvez regarder le Darby, le Bible de Semeur, Bible en français courant, et toutes sortes d'autres versions. Donc, je crois que ça aide à comprendre la signification de ce verset. Je pense qu'il s'agit de l'un des versets bibliques les plus mal compris. Lorsque nous lisons ce verset, nous pensons souvent que nous avons raison et que notre frère a tort et qu'il suffit de lui dire qu'il a tort. Mais nous venons de lire l'enseignement de Christ selon lequel nous ne devons pas condamner notre frère. Nous devons donc considérer les deux enseignements ensemble. Peut-être notre frère a-t-il péché contre nous, mais il se peut que nous ayons aussi péché contre lui. Peut-être avons-nous tous deux des choses à admettre. Notre frère a peut-être péché contre nous, mais il y a des circonstances qui ont conduit à cela et que nous devons entendre. Ou peut-être pensons-nous que notre frère a péché contre nous, alors que cela n'est pas tout le cas. Si nous voulons appliquer de bons principes de jugement, nous devons commencer par chercher à comprendre les faits, ce qui signifie écouter. Vous regardez souvent ce verset et pensons qu'il s'agit d'une voix à sens unique. Voilà, je vais parler avec mon frère. Parce qu'elle a tort. Un sens unique. Ou c'est nous qui lui disant. Mais une bonne chose, une bonne communication et un bon jugement exigent une écoute active à la volonté d'entendre ce que nous avons fait de mal. Je pense que nous puissions appliquer le principe de Matthieu 18, verset 15 ici, sans d'abord appliquer le principe de Matthieu 7, verset 1 et 2. Si nous avons déjà condamné notre frère avant d'aller le voir, nous n'avons que la peine et de la douleur dans cette conversation et nous en serons déçus. Lorsque nous parlons de nos préoccupations avec notre frère, nous devons appliquer Matthieu 7, verset 2 et écouter notre frère pour nous aider à voir le poutre qui est dans notre propre œil. Regardez maintenant au verset 16 pour voir un autre principe de jugement sage. Il dit au verset 16, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. » Faire preuve de discernement, il faut obtenir le témoignage de plusieurs personnes. Nous devons obtenir différents points de vue. Encore une fois, nous appliquons souvent ce verset comme une voix à sens unique. Je le dis à mon frère et à deux ou trois de mes amis. Mais qui sont ces témoins? Sont-ils impartiaux? Sont-ils des personnes que votre frère respecterait? Sont-ils capables d'écouter les deux parties? Et que se passe-t-il si les deux ou trois témoins confirment notre point de vue sur le péché de notre frère, mais qu'ils voient aussi que nous aussi, nous avons des torts? Allons-nous prendre leurs recommandations tout aussi au sérieux? Et que se passe-t-il si ces témoins ne sont pas d'accord avec nous? Allons-nous chercher d'autres témoins? De nombreux membres de notre association française savent que nous avons récemment signé un contrat avec un commissaire aux comptes pour examiner les états financiers de notre église, notre association. Selon les règles gouvernementales, nous avons dépassé certaines seuils financiers et cela est maintenant nécessaire. Notre contrat est d'une durée de 6 ans. Notre contrat est durée d'une 6 ans. Et ce contrat doit être approuvé par l'association. J'espère qu'on peut le faire dans quelques mois pour être approuvé. Mais pourquoi 6 ans? Pourquoi 6 ans? Parce que si le commissaire au compte nous dit quelque chose que nous n'aimions pas, le gouvernement ne veut pas que nous le renvoyions. Nous devons écouter et faire ce que cet expert recommande sur la base de son jugement professionnel. Ils sont tenus de respecter une norme et nous sommes tenus de respecter une norme. Écouter deux ou trois témoins, c'est la même chose. Parfois, les témoins sont d'accord avec nous. Parfois, ils ne le sont pas. La façon dont ils réagissent lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec nous, on dit long sur notre attitude. Suite au verset 17 maintenant. Verset 17 maintenant. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si Dieu d'entre vous s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et il finit cette chose, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a ici deux enseignements importants. Premièrement, nous devons, en tant que frères et sœurs, nous soumettre au jugement réfléchi de l'Église. Les deux parties doivent se soumettre. Les versets 19 et 20 sont intéressants car de nombreux érudits pensent que le « vous » ici fait référence aux parties opposées. Les deux ou trois personnes désignées ici, ceux qui ont un différend. Si elles parviennent et à un accord en particulier avec coopération avec l'Église, cet accord sera béni par Dieu dans le ciel. Dieu veut que ses enfants règlent les choses avec son aide. Le Christ enseigne que nous tournons vers lui pour qu'il soit impliqué dans ces questions de jugement. Intéressant. En résumé, ces versets nous enseignent qu'il faut aller vers la personne qui nous pose problème et avoir une conversation ouverte. Ces versets nous enseignent qu'il faut juger sur la base des témoignages de deux ou trois témoins. Et ces versets nous enseignent à chercher une solution en recherchant la direction de Dieu. Je dois ajouter que parfois, même dans l'Église, il y a des personnes avec qui nous ne pourrions pas résoudre certains problèmes relationnels, même si nous mettons en pratique tous les principes cités ici, avec humilité, bonté envers la personne, car si une personne a de l'orgueil, elle va insister sur sa position. Et nous devons alors accepter que seul Dieu pourra juger ou toucher le cœur de cette personne à sa manière et à son temps. Pour nous, c'est là que nous devons parfois subir le caractère d'une autre personne en discernant le problème, mais en laissant à Dieu le soin de tirer un verdict et une conclusion. Tout cela requiert énormément de sagesse, de patience, d'humilité devant Dieu. Lui demander de nous aider à discerner spirituellement ce qui se passe. D'abord en nous, ensuite chez l'autre, et ensuite mettre les choses entièrement entre ses mains. Donc, j'espère que ça aide un petit peu de comprendre le premier principe du jugement, d'aller vers notre frère, d'avoir une discussion avec notre frère spirituel, physique, notre sœur, bien sûr. Passons au point suivant. L'impartialité. Notre deuxième principe ici, éviter les préjugés. Éviter les préjugés. Reportez-vous s'il vous plaît à Jacques 2. Jacques chapitre 2 et verset 1. Jacques, après le livre d'Hébreux. Jacques 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de tout favoritisme. Et maintenant, il va partager un exemple pour nous de favoritisme. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si ton nom vous regarde vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là, debout, ou bien, assis-toi au-dessus de mon marchepied. Verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la fois et hérités du royaume qu'il promit à ceux qui l'aiment? Donc, ça c'est peut-être pour nous cet exemple est peut-être c'est un petit peu difficile de comprendre. Il se peut que nous lisons cela et que nous décidions de conclure sur la base de l'exemple donné que nous ne comporterons jamais de la sorte. À l'époque, les inégalités de revenus étaient beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Traiter une personne riche plus favorablement pouvait vous permettre de manger un repas supplémentaire par jour. Si cette personne riche vous donnait de l'argent en plus pour vos efforts de bien les traiter, si vous vous liez d'amitié avec cette personne, ça pouvait peut-être changer toute votre vie. Ici en France ou au Canada, nous ne sommes pas dans cette situation. Mais que se passe-t-il si nous remplacions l'ethnicité par une personne d'une autre culture? Si le contraste était entre une personne juive ou palestinienne, s'il s'agit d'un Algérien ou d'un Allemand, ou si la personne était chrétien ou musulmane, et si la personne avait fait de la prison, et si la personne était de SDF ou d'un parti politique très libéral. Ce que Jacques souligne, c'est que nous avons des préjugés. Des préjugés. Et que ces préjugés peuvent nous amener à nous comporter différemment. Il y a quelques années, j'ai prononcé un sermon sur le racisme, dans lequel j'ai parlé des défis posés par le racisme envers les Afro-Américains aux États-Unis. Et après le sermon, une personne assise, âgée, est venue me voir et m'a dit qu'elle ne pensait pas avoir un problème de racisme, mais qu'elle pensait seulement qu'elle devait faire très attention avec les personnes de confession musulmane. Elle m'a dit qu'elle croyait qu'un musulman pourrait la tuer. Oui, la tuer. Nous avons eu une discussion ouverte et elle a admis qu'elle avait très peur des personnes de confession musulmane compte tenu de tout ce qu'elle avait vu dans les journaux. Elle était honnête. Pour être des bons juges, nous ne pouvons pas laisser les stéréotypes influencer nos décisions. Nous savons qu'Adam a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela signifie qu'il y a du bien et du mal dans le monde. J'ai passé plusieurs mois au Moyen-Orient lorsque j'étais à l'université et j'ai trouvé que l'hospitalité arabe était le meilleur au monde. Chacun d'entre nous pourrait apprendre quelque chose sur ce que signifie être traité avec tel respect. Les musulmans du Sénégal, de l'Indonésie et d'Égypte sont assez différents que les catholiques d'Argentine et de France et de Vietnam. Nous sommes des individus issus de milieux différents et avons tous des expériences différentes. Nous devons comprendre nos préjugés et les confronter activement pour nous assurer que nous traitons toutes les personnes avec respect. Examinons alors un dernier principe, notre troisième principe. Troisième principe ici, se méfier de la justice populaire. Se méfier de la justice populaire. Nous devons éviter de nous contenter de suivre ce que tout le monde fait. Pour se forger une opinion sur quelque chose, il faut analyser soigneusement tous les faits. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à l'Exode 23. L'Exode 23 et verset 2. L'Exode 23 et verset 2. Ça, c'est juste trois des principes. J'ai oublié le nombre de principes qui est sur la liste de Monsieur Clore et Monsieur Bernal. Je crois qu'il y a une douzaine. Donc, j'espère que vous pouvez passer d'autres temps pour étudier les autres, mais ça, c'est juste, j'ai juste tiré trois. L'Exode 23 et verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant de côté du grand nombre pour violer la justice. Nous sommes le produit de notre culture et des informations que nous recevons. De nombreuses questions complexes nous entourent et il est très facile de laisser influencer par l'un ou l'autre camp. Les choses sont vraiment simples. À ce moment, la guerre fait rage au Moyen-Orient et en Europe. Les élections politiques ont lieu dans différents pays. Nous venons de sortir d'un verrouage mondial lié au COVID. Ces événements vont se poursuivre et ils risquent de nous diviser. Il nous est demandé d'observer les événements mondiaux et de nous préparer spirituellement au retour de notre Messie. Surveiller les événements mondiaux signifie également veiller et à ne pas se laisser entraîner par les mouvements populaires ou à ne pas faire de mauvais jugements concernant certaines nations ou certaines couches sociales différentes de nous, soit parce que les gens sont plus riches ou peut-être parce qu'ils sont sans abri. Nous devons veiller à la façon dont nous jugeons les situations en refusant de forger une opinion sur la base de quelques faits. Si nous voulons avoir une opinion sur quelque chose, nous devrions lire et étudier des sources d'informations variées et divergentes plutôt qu'un uniquement ceux qui confirment déjà nos propres idées. Nous aurons besoin de parler à diverses personnes de milieux différents. Si nous ne parlons qu'avec nos amis et si nous ne lisons que certaines sources d'infos, nous risquerons de tomber dans le piège décrit dans ce verset. Nous risquerons de mal juger une situation. Si nous pensons qu'il nous est impossible de vraiment savoir la vérité, car elle est parfois élusive. Alors choisissons de ne pas juger de cette situation. Choisissons de réserver notre jugement ou de ne pas répéter des choses improuvables comme si elles étaient arrêtées. Voilà, il y a tant de choses à discuter lorsqu'il s'agit de faire preuve de discernement. Mais j'espère que nous nous souviendrons des points essentiels ici. Nous sommes appelés à apprendre à juger maintenant. En devenant des êtres spirituels, nous n'allons pas recevoir de pouvoir magique qui nous donnera une sagesse parfaite d'un seul coup. Mais les anges ont pris de mauvaises décisions. Dans nos jugements d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre à la place de Dieu. Nous devons avoir une conversation avec notre frère et sœur en cas de litige. Nous devons nous appuyer sur deux ou trois témoins. Nous devons éviter les préjugés. Nous devons éviter la justice populaire. J'espère que vous prendrez le temps d'étudier davantage le sujet de bons jugements et que cette étude portera des fruits en ce qui concerne la manière dont nous prenons des bonnes décisions. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite encore une fois un très bon sabbat et j'ai hâte d'avoir une discussion après l'Assemblée. Merci.